Les voix du livre. Une émission proposée par Claire Garand en compagnie d'Arthur Caillot, l'ado accro au livre, et de Fanny De Citre de la librairie Le Cyprès Jean de la Lune du réseau de librairies indépendantes Initiale. Vous êtes bien sur Bac FM et nous sommes en studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Claire.
Bonjour Fanny.
Bonjour Claire.
Ah, ça fait du bien de sentir l'été arriver là. C'est le bon moment pour aller faire le plein de livres à lire, mais aussi pour se mettre à écrire. Je signale d'ailleurs pour tous ceux qui veulent délier leurs plumes cet été, la parution du numéro spécial du magazine Lire, dirigé par Baptiste Liger, qui s'est déjà exprimé sur les ondes de Bac FM. Alors ce numéro hors série, Écrire et se faire éditer, est rempli de bonnes idées pour se lancer dans l'écriture, avec des conseils d'auteurs comme Éric-Emmanuel Schmitt, ou d'éditeurs comme David Meulemans, l'éditeur de, oh surprise, de notre invitée du jour, Alexandra Kozelik. Quelle transition habile. Car nous aurons le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui, en deuxième partie de notre émission, Alexandra Kozelik, l'auteur de La dixième muse, un roman publié aux éditions des Forges de Vulcain. C'est son deuxième roman et le premier, A crier dans les ruines, c'est le titre, avait déjà remporté de nombreux prix. Et celui-ci semble bien parti pour suivre la même voie. Elle nous dévoilera tout à l'heure les coulisses de la rédaction de ce roman qui transcende les genres avec littérarité. Et voilà déjà donc un premier livre à mettre sur votre liste de lecture. Et nos chroniqueurs sont là pour vous en proposer plusieurs autres qui sont choisis avec art et joie. Et tout de suite, je laisse donc la parole à Arthur qui va nous parler de couleurs, et de souvenirs, mais aussi de non-réciprocité des sentiments.
En
le
effet.
Programme est alléchant.
Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, l'été arrive, et avec les vacances au soleil, au bord de la mer, à la montagne. Alors, quoi de mieux qu'un bon livre pour se détendre les pieds dans l'eau?
Oui, surtout à la montagne, les pieds dans le lac gelé, ça marche. On est prêts.
Du coup, ce mois-ci, je vais vous présenter mes deux derniers coups de cœur, qui sont deux romans totalement différents, comme vous le disiez juste avant. Je vous embarque d'abord dans un désert assez spécial avec Le désert des couleurs de Aurélie Wellenstein. Puis je vous parlerai du nouveau roman de Julia Thévenot, Lettre à toi qui m'aime, qui risque de beaucoup vous surprendre.
On a très envie d'être surpris, ça tombe bien.
Et bah justement, commençons donc sans plus tarder avec Le désert des couleurs qui s'accordera parfaitement avec le paysage si vous lisez au bord de la plage.
Alors c'est quand même un désert un petit peu chaud là.
Ah oui, oui, il n'y a pas de... mais il y a le sable. Donc l'histoire prend place dans le futur et le sable a recouvert toute la terre ou presque. Un sable assez spécial puisque chaque grain de sable contient le souvenir d'un être humain.
C'est très poétique ça comme
idée. Et en plus de ça, il est impossible d'entrer en contact avec ce sable sans commencer à perdre ses souvenirs à son tour. C'est pourquoi une communauté a décidé d'aller s'installer au cœur d'un volcan en attendant de trouver un endroit plus habitable. Alors nous suivons Kabal Rai, qui est un jeune homme au pouvoir étrange, et Irae, sa demi-sœur, qui ont été choisis pour trouver un nouvel endroit où s'installer. Il va s'en suivre un périple mortel à travers le désert peuplé de multiples
mortel.
Dangers.
C'est déjà un spoiler là.
où chaque grain de sable justement absorbe peu à peu les souvenirs.
C'est affreux ça, hein. C'est une sorte de métaphore de la maladie d'Alzheimer précoce.
Presque, ouais.
C'est pas évident de raconter une histoire dont les personnages.
Et ben justement, moi j'avais peur que ça soit une épopée dans le désert un peu ennuyante parce que dans le désert on se dit.
Mais qu'est-ce qu'on va faire dans le désert?
Mais justement, au contraire, elle était passionnante parce que le désert des couleurs c'est une aventure entraînante et envoûtante qui regorge d'épreuves originales. En plus, l'imagination de l'autrice, mais elle est incroyable et elle m'a surprise un peu plus à chaque page.
C'est pas étonnant de la part d'Aurélie Wellenstein. Mmh, elle a une
vrai.
Imagination débordante, déjà dans ses précédents romans.
Et en plus, les paysages et les descriptions sont absolument stupéfiants. C'est magnifique, c'est très imagé. Si bien que j'avais parfois l'impression d'être avec les personnages quand elle décrit, par exemple, le sable au camaïeu de bleu, violet. C'est vraiment super beau.
On en a plein les yeux, en fait.
Exactement, sans le voir. En plus d'être une aventure, ce roman s'apparente aussi parfois à une enquête, puisque on va dans les souvenirs de Irae, et c'est difficile parfois de démêler le vrai du faux avec les dangers du sable qui peut modifier les souvenirs, ou alors les souvenirs qu'elle dit faux alors qu'ils sont vrais, etc. Donc c'est une enquête introspective un peu.
Sur un jeu sur la vérité, sur ce qu'on croit, ce dont on se souvient, ce dont on croit se souvenir.
Parce que, en fait, quand elle perd ses souvenirs, le jeune homme rattrape ses souvenirs et les vit et lui raconte. Mm-hmm. Mais elle, comme elle ne se souvient pas d'avoir vécu ça, elle peut dire que non, elle n'a pas vécu ça. Et en même temps, elle peut se souvenir qu'elle a vécu ça.
Oui, voilà. Donc c'est une histoire de souvenirs à tiroir.
Exactement.
Ça doit être assez complexe, hein, en effet.
Bref, c'est un sublime roman qui est sans hésitation un coup de cœur. Et si vous n'êtes pas convaincu, après mon avis, je ne peux plus rien faire pour vous. Bon, en vrai, si, je peux vous parler d'un autre roman qui est totalement différent, mais tout aussi bien. Donc, Lettre à toi qui m'aime, c'est le nouveau roman de Julia Thévenot, qui est une autrice talentueuse, inventive, mais surtout une personne adorable que j'ai hâte de rencontrer dans la vraie vie.
Au prochain Salon de Montreuil ?
Mais peut-être même avant.
Ah mais oui, bien sûr, oui, parce que pour les auditeurs qui ne le savent pas, donc Arthur va pouvoir faire un stage chez Sarbacane pendant l'été.
Exactement.
Et rencontrer des éditeurs et des auteurs en chair et en os.
Exactement.
Il faudra pas perdre ses souvenirs.
Du coup, avec Lettre à toi qui m'aime, elle nous offre un roman poignant qui est un bonbon rose éclatant. La couverture est très très rose, et elle est très belle, même très 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 belle. Et le roman est délicat, poétique et assez original. C'est un roman indispensable qui vous fera forcément écho. Parce que c'est une histoire très tendre, très cruelle, très réaliste et surtout unique.
J'aime bien tendre et cruelle à la fois. Donc,
oui.
C'est, tout de suite, ça donne envie. On se dit, mais comment est-ce que ça peut être tendre et cruelle à la fois?
En fait, elle raconte très très bien le sentiment, vous savez, de malaise, de peine, de mélancolie quand quelqu'un vous aime mais que vous ne l'aimez pas en retour. Car oui, Lettre à toi qui m'aime, c'est un roman d'amour, mais pas ce genre d'amour où ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants, ou pourquoi ne m'aime-t-elle pas? Non, c'est une histoire du point de vue de la personne aimée, mais qui n'aime pas en retour.
Donc il y a quand même un angle assez profond, c'est
oui,
original.
Bon,
et...
je vais vous parler de l'histoire, comme ça vous allez voir, vous allez mieux comprendre. Donc, Iliès aime Pénélope, mais Pénélope n'aime pas Iliès. Pourquoi? Elle ne sait pas. Elle ne l'aime pas, c'est tout.
Ça rappelle Andromaque. Hein.
Oui. Enfin, si, elle l'adore en fait, mais en tant qu'amie, quoi. Mm-hmm. Pas plus. Pourtant, elle sait qu'elle lui plaît. Et elle le laisse s'approcher un petit peu. Mais bon, elle sait qu'il ne se passera jamais rien. C'est triste, mais c'est comme ça. Un point, c'est tout. Nous, en tout cas, lecteurs, nous plongeons dans la tête de Pénélope, où nous sommes pris dans le tourbillon de ses doutes, de ses peines, de ses angoisses, et où nous découvrons tous ses sentiments sans tabou, qui montrent ce que c'est d'aimer vraiment, en fait.
C'est très introspectif, finalement.
Oui, aussi. La beauté de ce roman se reflète aussi par sa poésie, parce que l'autrice écrit un peu en vers libre, et elle utilise des mots qui transportent une certaine musicalité, et ça rajoute encore de la douceur au roman. Donc elle aime beaucoup jouer avec les mots aussi. Voilà, donc Lettre à toi qui m'aime, c'est un roman sincère et envoûtant, et surtout essentiel. Et d'ailleurs, si vous êtes curieux d'en savoir plus sur le roman, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram mon interview de Julia Thévenot, où elle raconte le tourbillon d'émotions, d'expériences et d'idées qui ont donné naissance à ce roman.
Un vrai tourbillon, justement.
Oui. Elle donc, raconte toute sa jeunesse, toute son inspiration de sa vie personnelle pour écrire ce roman.
Donc, ça permet d'enrichir un petit peu la lecture du roman.
Oui, exactement.
Ça
permet soit
sources.
De donner encore plus envie avant de l'avoir lu, soit d'apprécier encore plus sa lecture après l'avoir lu en découvrant l'interview, justement.
Alors, encore une bonne raison d'aller sur ton compte Instagram et sur ta page Facebook pour découvrir d'autres livres chroniqués
oui,
et donc
que
des interviews.
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez aller voir l'ado accro au livre, vous tapez sur Instagram ou sur Facebook et vous trouverez forcément votre bonheur parce que j'ai plus de 500 chroniques à mon compteur.
Et dans tous les genres.
Et dans tous les genres.
Dans tous les genres. Donc,
bon, ça reste dans le young adult quand même.
Oui, oui, mais tous les genres du young adult. Mm-hmm. Donc, on y trouve même ce qu'on ne cherche pas, c'est-à-dire en général les meilleures pépites.
Exactement.
Merci beaucoup, Arthur, pour ces suggestions.
Merci, Claire.
Et nous allons écouter une musique qui est en rapport avec ce deuxième roman. Arthur,
exactement.
Quelle est cette
musique ? Elle a inspiré l'autrice lors de l'écriture du roman, oui. Il s'agit de Love, Love, Love de Of Monsters and Men.
Eh bien, on écoute Love, Love, Love.
Well, maybe I am a crook for stealing your heart away. Yeah, maybe I'm a crook for not caring for it. Yeah, maybe I'm a bad, 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 bad person. Well, baby, I know. And these fingertips will never run through your skin. And those bright blue eyes can only meet mine across a room filled with people that are less important than you. Or cause you love, love, love when you know I can't love you. Love, love, love when you know I can't love you. Love, love, love when you know I can't love you. It's best we both forget before we dwell on it. The way you held me so tight all through the night till it was near morning. Cause you love, love, love when you know I can't love you. Love, love, love when you know I can't love you. Love, love, love when you know I can't love you. Ah, cause you love, love, love when you know I can't love you. Love, love, love when you know I can't love you. Love, love, love when you know I can't love you.
C'était Love, 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 beaucoup d'amour sur Bac FM. Nous sommes de retour dans les voies du livre avec Fanny De Citre de la librairie Le Cyprès Jean de la Lune qui va nous parler eh bien, d'une saga, enfin une longue photographie de, du Royaume-Uni, jusqu'au Brexit quand même. Hein.
Jusqu'au Brexit, oui, fatalement. ouais, c'est trois livres que je suis très très heureuse de vous présenter aujourd'hui. Trois livres de Jonathan Coe. Qui est un auteur que j'aime beaucoup, que j'ai découvert grâce à ces trois livres-là. Et en fait, je suis très heureuse parce que j'ai l'impression que c'est des livres qui peuvent répondre à une panne de lecture, comme ça m'arrive en ce moment. je me dis que ça peut être une bonne idée pour reprendre la lecture que ces trois livres-là.
Il y en a trois quand même.
Il y en a trois. Il y en a trois et c'est 500 pages, je crois, en moyenne à chaque fois. Mais c'est des livres qui se dévorent.
Contre la panne de lecture, donc trois livres de 500 pages.
Vraiment qui se
c'est un remède de cheval.
Ouais, c'est prenant, c'est assez brillant. Enfin bon, bref. Donc ces trois livres, c'est Bienvenue au club, Le cercle fermé et Le cœur de l'Angleterre. Le premier livre, Bienvenue au club, est sorti, je crois, en 2001 et le dernier en 2019. Et donc Jonathan Coe, avec son premier livre Bienvenue au club, va, comme vous le disiez, présenter une photographie de l'Angleterre des années 70. On est avant l'arrivée de Thatcher au pouvoir. c'est une époque qui est encore un peu insouciante, baba cool, voilà.
C'est sûr qu'avec Thatcher, ça a changé.
Ça va changer, mais on sent quand même une sorte de montée de l'extrême droite. La grogne des syndicats qui se fait de plus en plus importante. Il y a l'IRA, voilà, et le terrorisme qui est également évoqué.
Ça veut dire que le contexte historique est vraiment très prégnant.
Ouais, en fait, j'ai l'impression que dans ce premier livre, Jonathan Coe prend des personnages, prend l'histoire de quelques collégiens et amis et leur famille pour décrire cette société anglaise. À la différence du dernier livre, où là, on va retrouver les mêmes personnages, mais 40 ans ou une trentaine d'années plus tard, à l'époque du Brexit. Et là, j'ai plus l'impression qu'en fait, il utilise le Brexit pour parler de ces personnages et pour les montrer, pour montrer leur évolution, en fait, dans ce contexte précisément.
Oui, parce qu'ils ont dû beaucoup évoluer depuis les
années
70.
Oui, bien sûr. Et justement, c'est ça qui est intéressant, de suivre, en fait, ces trois collégiens avec leurs idéaux, avec leurs espoirs. C'est des jeunes qui ne pensent qu'à oser parler aux filles, qui pensent à faire de la musique, à écrire des livres et les retrouver.
Très profond.
Oui, voilà, mais c'est très touchant. Et puis les retrouver dans le deuxième livre, donc Le Cercle Fermé, où là, c'est l'époque Tony Blair, donc des dizaines d'années plus tard, et voir est-ce qu'ils ont abandonné leurs rêves, leurs idéaux, est-ce qu'ils ont toujours cette même légèreté, enfin voilà, est-ce qu'ils sont toujours amis, est-ce que
oui, ça c'est vraiment des thématiques universelles, hein.
Ouais, et vraiment suivre ces personnages auxquels évidemment on s'attache énormément à travers trois époques bien marquées de l'Angleterre. J'ai trouvé ça vraiment très 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 intéressant. Et puis, moi, Jonathan Coe, j'adore son écriture. Je trouve extrêmement drôle. C'est très anglais. Il est très inventif. Et puis, je le trouve brillant dans sa manière de raconter les personnages, de les décrire. Enfin, pour moi, c'est des gens qui existent. Si je vais un jour en Angleterre, je vais les rencontrer. J'en suis persuadée. Vraiment, ils sont extrêmement réels. Et puis, il a une écriture qui est très très joueuse. Il joue avec le fait d'écrire, justement, où il s'adresse parfois au lecteur, donc ce qui nous sort un peu de l'histoire, et je trouve ça très intéressant. Voilà, c'est évidemment un portrait assez critique, quand même,
oui,
de l'Angleterre, du libéralisme.
Justement, qu'est-ce qu'il en dit d'Angleterre, de l'évolution de l'Angleterre?
Justement, c'est intéressant parce que, à travers plein de personnages différents, il y a vraiment énormément de personnages, on trouve une critique du libéralisme de l'Angleterre. Et dans le dernier bouquin, dans Le Cœur de l'Angleterre, où il va aller chercher l'origine presque du Brexit, pourquoi le peuple anglais s'est retrouvé d'un coup si divisé. Et par le biais de ces personnages, montre que c'est compliqué en fait d'évoluer dans un pays comme l'Angleterre avec ce libéralisme-là, et des personnages qui étaient rebelles, enfin qui étaient pleins de convictions, justement le temps faisant s'assoit un peu sur leurs convictions politiques.
Donc c'est vraiment, on suit l'évolution de ces personnages, mais leur évolution politique, leur évolution psychologique aussi,
ouais,
et avec une meilleure incarnation des opinions politiques, justement, qui ont pu mener jusqu'au Brexit.
Oui, enfin c'est pas si comment dire,
peut-être pas si marqué.
C'est
que
pas
ça.
Si marqué, voilà, parce que justement, ce que je trouve intéressant avec le dernier livre, c'est que tout est en nuances. En fait, et que comme il y a plusieurs personnages qui sont très différents des uns des autres, en fait, il décrit juste la vie de ces gens, quelles décisions ils vont prendre, parce que la vie est compliquée, parce
Certes.
Que la vie peut être surprenante, et qu'on va prendre des décisions qui seront peut-être à l'encontre de nos principes,
mais qui paraissent les meilleures au moment où on les prend.
Voilà, exactement. Ouais, c'est pas une critique pure et simple.
C'est la vraie vie, en fait.
Je peux pas dire autrement. C'est vraiment la vie comme elle vient, en fait.
C'est pour ça qu'ils sont si réels.
Ouais, je crois.
Donc, on a un écrivain qui réussit à susciter des personnages très réalistes qui vont nous permettre de comprendre, en fait, les évolutions du Royaume-Uni pendant cette longue période qui ont mené à ce qu'on connaît aujourd'hui.
Ouais. Alors, on comprend encore une fois, par un tout petit angle, parce qu'on n'a pas c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui manque dans le cœur de l'Angleterre. C'est qu'on n'a pas tous les points de vue. On a le point de vue de personnages qui ont une cinquantaine d'années, qui sont devenus plutôt aisés dans leur vie, voilà, qui peuvent se permettre d'être anti-Brexit. Et ils justifient, d'un autre côté, le Brexit par l'immigration qui est de moins en moins acceptée par le peuple anglais, voilà, par une vie qui est de plus en plus difficile, mais on n'a pas le point de vue de toute cette population. On l'a, mais vraiment très peu.
De manière indirecte, peut-être.
Oui. Ouais. Donc c'est peut-être ce qui manque un peu, c'est qu'il n'a pas, justement, ça brosse pas non plus l'ensemble du peuple anglais.
C'est plutôt l'avis des personnes aisées sur les.
Ouais. Et ça peut être une critique qu'on peut amener à ce dernier livre. Mais encore une fois, les personnages sont tellement attachants, sont tellement bien décrits. Voilà, moi, c'est une réflexion qu'on peut se faire après la lecture de ces trois livres-là. Mais sur le coup, pendant la lecture, c'est juste du plaisir.
Est-ce qu'il y a un personnage qui sort un petit peu du lot ?
Oui, il y a.
Je crois.
C'est Benjamin. Benjamin Trotter, donc, qui fait partie du groupe d'amis. Et c'est un personnage qui est à la fois touchant et qui peut être parfois agaçant, mais qui a un projet dès le collège, qui est d'écrire un livre immense, un projet complètement titanesque et fou. Et il va passer toute sa vie à essayer d'écrire ce livre qui va mêler la musique, parce qu'il est également musicien, donc il va essayer de créer de la musique qu'on écouterait pendant qu'on lit le livre. Et puis c'est un livre qui va finir par faire des milliers et des milliers de pages.
Et un petit peu comme le roman de Co, finalement.
Oui. Mais alors, il a l'air beaucoup plus ennuyeux que le roman. Ouais. Et dans le cœur de l'Angleterre, on a le dernier mot, enfin la toute fin de ce Benjamin et l'histoire de son livre, qui est voilà, c'est assez drôle. C'est un personnage aussi qui découvre la foi au collège, avec une histoire que j'ai également trouvée très très drôle, où il est ses jours de piscine et il a oublié son maillot de bain.
Ah, c'est pas
et
de chance.
Les jours de piscine, quand les élèves oublient leur maillot de bain, ils se baignent tout nus. Donc
ah oui.
Les élèves n'attendent que ça, en fait, que quelqu'un oublie son maillot de bain pour pouvoir se moquer. Et il va se réfugier dans le vestiaire de la piscine et prier pour la première fois de sa vie, et prier qu'on lui donne un maillot de bain. Il entend une porte claquer et il voit un maillot de bain pendu dans les vestiaires.
C'est la preuve que Dieu existe.
Voilà, c'est exactement ça. Et il va du coup avoir la foi. Qui va être, j'en dis pas plus, mais voilà.
On dit que le diable est dans les détails, mais en fait, c'est Dieu qui est dans les détails, il est dans les slips de bain. Il fallait y penser.
Ouais. Enfin voilà, c'est plein de petites histoires comme ça qui sont.
Donc le premier volume se déroule donc dans les années 70.
Ouais. Deuxième volume, c'est dans les années 90, et le dernier volume de 2010 à 2018 à peu près.
Et donc, c'est la lecture idéale pour les vacances, puisque trois volumes de 500 pages, il faut avoir un peu de temps devant soi.
Voilà. Et puis, on passe vraiment de bons moments. C'est drôle, c'est brillant, c'est très intelligent, je trouve. Voilà.
Donc, à quel lecteur est-ce que on peut recommander
cette
trilogie
à tout le monde. vraiment, c'est un livre qu'il faut. Enfin, c'est trois livres qu'il faut avoir lus. C'est abordable, c'est une écriture qui est facile et en même temps ciselée. Enfin, c'est lisez-le, lisez ces livres.
Donc voilà, le message est passé. Si vous avez envie de passer un bon moment avec un bon roman en trois parties, en trois grosses parties, que vous ne sentirez pas passer.
D'ailleurs, juste pour l'anecdote, les deux premiers livres, c'était à la base donc un diptyque, et Jonathan Coe s'est arrêté au deuxième volume. Et avec le Brexit, en fait, il n'a pas pu résister à reprendre l'histoire de ces personnages pour les faire vivre dans cette époque-là.
Donc, s'il y a un nouvel événement en Grande-Bretagne, peut-être
certainement qu'on retrouvera
un quatrième volume.
Oui. Oui.
On ne sait pas. C'est une série. En fait, c'est une série. C'est une saga.
Oui.
Eh bien, merci beaucoup, Fanny.
Avec
nous
plaisir.
Voilà Pareil pour l'été. Là, je crois qu'on a, on a de quoi faire pour ces suggestions de lecture. Et je vous invite d'ailleurs, si vous voulez d'autres suggestions de lecture, à lire le dernier numéro du magazine des librairies indépendantes Initiales, qui regorge de livres de tout genre, sélectionnés avec soin par différents libraires de différentes librairies. Et alors, vous ne le voyez pas, mais Fanny...
J'opine du chef.
Voilà. Et ils ont tous un point commun. Ils sont bons.
Je me demandais ce qu'il est.
Voilà.
Oui, évidemment.
Donc, ce numéro du magazine est disponible dans toutes les librairies du réseau Initial. Eh bien, merci beaucoup. Et donc, en avant-goût de l'interview d'Alexandra Kozelik, je vous propose d'écouter le premier morceau qu'elle a choisi, John Baez, Diamond and Rust.
Again, but that's not unusual. It's just that the moon is full and you happen to call. And here I sit and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy, you said. Where are you calling from? A booth in the Midwest. Brought me something. We both know what memories can bring. They bring diamonds and rust. Scene already a legend, the unwashed phenomenon, the original vagabond. You strayed into my arms, and there you stayed, temporarily lost at sea. The Madonna was yours for free. Yes, the girl on the half shell could keep you unharmed. Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. Now you're smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square. Our breath comes out white clouds, mingles and hangs in the air. Another word for it. You were so good with words and at keeping things vague. 'Cause I need some of that vagueness now. It's all come back too clearly. Yes, I loved you dearly. And if you're offering me diamonds and
interest I've already paid. C'était
Diamond and Rust de John Baez, choisi par notre invité. Vous êtes bien sûr Bac FM dans la deuxième partie de l'émission Les Voix du Livre. Et nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Alexandra Kozelik par téléphone. Bonjour Alexandra.
Bonjour Claire.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors Alexandra, vous êtes écrivaine, vous êtes passionnée par l'histoire de l'art, auteure de La Dixième Muse, publiée aux éditions des Forges de Vulcain. Et votre premier roman, A crier dans les ruines, publié en 2019, avait déjà reçu de nombreux prix, prix Talent, prix Libraire en scène, prix Totem des lycéens, prix Infiniment, prix Point. Je ne vais pas pouvoir tous les citer, il y en a trop. Et votre deuxième roman, que vous venez de publier chez le même éditeur, suit cette lancée puisqu'il est déjà coup de cœur de la rentrée de la FNAC. Alors, oui, c'est un beau départ.
Oui.
On lui souhaite la même suite que le précédent. Donc, la Dixième Muse commence un peu comme un roman fantastique, avec un personnage, Florent, qui voit sa vie bouleversée par des sortes d'intersignes et des personnages qui le ramènent à Guillaume Apollinaire après une visite au cimetière du Père-Lachaise où se trouve la tombe du poète. Et bientôt, le lecteur va croiser d'autres voix qui vont lui faire comprendre peu à peu, c'est très progressif, le sens de cet événement, en fait, qui lui est arrivé, cet événement étrange. Mais le roman a un double fond, que je ne révélerai bien sûr pas, et qui se niche entre les anneaux de croissance d'un morceau de bois, on le dit tout de suite dès le début, qui accompagne le protagoniste depuis le cimetière jusqu'au bout du roman, en fait. Alors, très vite, le lecteur s'interroge. Votre roman qui est centré sur la vie, sur les œuvres et les amours du poète Apollinaire, pourquoi avoir choisi ce poète et surtout pourquoi l'avoir relié aux arbres et plus généralement à la nature ?
Alors Guillaume Apollinaire est un poète qui me suit depuis le lycée. J'ai étudié avec mon professeur donc le recueil Alcool et ça a été un vrai bouleversement dans ma vie de lycéenne. Auparavant, pour moi, la poésie, c'était seulement des récitations, alors qu'avec lui, j'ai vraiment découvert un autre sens à la poésie, une nouvelle signification. Et puis après, par la suite, lorsque j'ai été étudiante, Apollinaire aussi a été un des jalons, puisque je suis professeure aussi, professeure de lettres, et lorsque j'ai passé le concours, je suis tombée sur un poème d'Apollinaire.
Oh non, oui. C'est vrai, c'est incroyable.
Et donc c'était Nuit Rhénane, et donc il me suit un petit peu. Et puis par la suite, alors comme je suis professeure de français, il m'arrive d'étudier Guillaume Apollinaire, c'est un de mes poètes chouchous, on va dire. Et en 2017, fin 2017 ou début 2018, je crois, j'ai lu un roman de Gaëlle Nohant qui s'appelle La légende du dormeur éveillé, dans lequel elle parle du poète Desnos. Et c'est un formidable roman d'ailleurs. Et à la fin, elle évoque Guillaume Apollinaire. Et j'ai eu comme un manque, en quelque sorte, parce que j'ai eu envie, lorsque j'ai lu le livre, que le roman parle en fait de Guillaume Apollinaire. Et quand je l'ai refermé, je me suis dit, mais pourquoi pas un livre sur Guillaume Apollinaire? Parce que c'est quelqu'un qui est dans ma vie, en quelque sorte, depuis de nombreuses années. Et j'ai eu envie, dans un premier temps déjà, de me documenter sur Guillaume Apollinaire, parce que je connaissais ses poèmes, mais je connaissais assez peu sa vie. Et lorsque j'ai commencé à lire une biographie d'Apollinaire, je me suis rendu compte, il y a un épisode qu'il a vécu avec son frère, qui est dans la forêt de Stavelot, et c'était quelque chose qui m'a vraiment interpellée, parce que pour moi, ils étaient très jeunes, ils avaient 17 et 19 ans, et leur maman, c'est une histoire assez particulière, c'est-à-dire qu'ils étaient dans une pension. Leur mère était un peu plus loin dans un casino parce que elle adorait jouer. Et à un moment donné, elle leur a dit, écoutez, je n'ai plus d'argent pour payer la pension, donc il va falloir que vous partiez. Mais il va falloir partir de nuit en catimini puisque je peux pas payer la pension. Donc ils sont partis. Et ils ont dû traverser effectivement des forêts en pleine nuit. Et pour moi, on ne peut pas en fait avoir vécu ça sans que ça ait une importance dans la suite de sa propre vie. Et je me suis dit que Guillaume Apollinaire s'était forcément inspiré de ce qu'il avait vécu à Stavelot. Et donc j'ai commencé à chercher des poèmes autour de Stavelot, qui ont été écrits à Stavelot, cette période-là. Et il y avait énormément de poèmes qui parlaient de nature. Et de là, voilà, est née cette idée du roman, faire parler, alors pas faire parler Apollinaire, mais parler d'Apollinaire, mais sous le prisme justement de la nature. Ce qui m'intéresse aussi, c'était de ne pas parler d'Apollinaire tel qu'on le connaissait, puisque quand on parle de Guillaume Apollinaire, généralement c'est les poèmes ou les lettres à Lou, ce sont des poèmes amoureux, ou alors la littérature un petit peu érotique ou grivoise. Et j'avais pas envie de montrer cette facette de Guillaume Apollinaire. J'avais envie plutôt de montrer une autre facette. J'aime bien en fait, imaginer des choses dans les interstices, dans les blancs, et en tirer quelque chose de romanesque. Voilà, c'est pas vraiment faire une biographie. C'était combler des blancs en fonction de ce que j'avais lu dans ses poèmes et dans ce qu'il avait vécu.
Et effectivement, les poèmes sont cités, enfin certains poèmes sont cités en entier, parfois il y a simplement quelques vers, parfois même ils sont quasiment intégrés au texte. Je ne citerai pas parce que il y a des moments où c'est important aussi dans la narration, dans l'évolution de la narration, mais je comprends mieux pourquoi vous avez choisi ce lien, effectivement cette promenade, si je puis dire, ou cette fugue, cette fuite dans la forêt est un événement rare et qui n'a pu que marquer le poète. C'est sûr que c'était original comme voie d'approche, et vous l'avez développé en fait d'une manière que je laisserai au lecteur, au futur lecteur, le plaisir de découvrir. Et justement, c'est quand même un travail particulier de travailler justement sur un poète qui existe. Quels ont été les défis d'écriture un petit peu spécifiques à la rédaction d'un roman qui est consacré à un personnage historique et littéraire ?
Alors, mon approche a été vraiment celle de l'être humain. C'est-à-dire que je voulais faire un portrait de l'homme et pas forcément du poète. Et c'était vraiment son humanité que je voulais mettre en avant, tout en montrant bien entendu le lien avec ses poèmes, parce que entre l'homme et le poète, il y a forcément un lien de toute façon. Mais vraiment, c'était le rendre plus proche de nous, ne pas voir la figure du poète, mais voir la figure de l'homme. Comment finalement un être humain se construit, donc là, à travers la nature et aussi à travers ses rencontres. Donc j'ai lu effectivement pas mal de biographies, et c'était intéressant parce qu'en fonction des époques, les biographes mettent certaines choses en avant ou en thèse d'autres. Donc c'est assez marrant de voir à quel point forcément les biographies sont orientées. Et puis après, par la suite, il fallait aussi que j'arrive à m'extraire de cette approche assez didactique, puisque je ne voulais pas faire de biographie de mon côté. Donc c'était vraiment lire la biographie d'Apollinaire, mais n'en retirer que ce qui pouvait m'intéresser de mon côté.
Donc quelque chose de très humain, le substrat humain qui donne naissance à la poésie, l'homme derrière la poésie peut-être.
Tout à fait, oui. Parce que pour moi, l'enfance d'Apollinaire, qui est une enfance assez chaotique, avec un père qui est, il connaît pas son père. Sa mère, elle, c'est une mondaine, et donc elle est très attirée par tout ce qui brille. Et elle met d'ailleurs longtemps à reconnaître Guillaume, puis après son frère Albert. Et je me suis demandé comment quelqu'un pouvait se construire sur des parents qui étaient assez défaillants. Et lorsqu'on puise un petit peu dans la vie d'Apollinaire, on se rend compte que très rapidement, il va trouver une forme de... C'est pas la réalité qui va le construire, puisque la réalité, elle est complètement... elle bouge, en fait, un petit peu comme un bateau. Et donc, ça va être vraiment la littérature qui va pouvoir l'enraciner en quelque sorte. Enfin, après, c'est ma vision du poète. C'est pas voilà. C'est pour moi, il s'est construit de cette façon-là.
Et donc cette construction sur de l'instabilité finalement. Mm. Est-ce que c'est l'un des éléments qui vous ont amené à aborder la biographie et puis enfin les aspects biographiques par le biais du réalisme magique, parce que c'est vraiment ce réalisme magique qui environne tout le texte. Est-ce que ce choix du réalisme magique apporte quelque chose, vous permet d'explorer une dimension différente de ce qu'aurait pu permettre un réalisme tout court?
Oui, alors après, Guillaume Apollinaire est celui qui a créé le mot surréalisme. Et donc, ça convenait très bien avec la forme de ce roman-là. Pour moi, devait aussi mimer ce qu'il avait été, c'est-à-dire que s'il a créé ce mot-là, c'est-à-dire que la réalité pour lui ne lui convenait pas forcément, et donc il fallait s'évader dans les rêves, il fallait voir une autre réalité dans la réalité qui existe, si je puis dire.
Oui.
Et comme alors dans mon premier roman, c'est un procédé que j'ai utilisé, mais de façon un peu plus subtile. Et lorsque j'ai corrigé mon premier roman avec mon éditeur, je me suis rendu compte que le réalisme magique, c'était quelque chose que j'adorais finalement lire dans les romans en tant que lectrice et en même temps en tant qu'autrice. Et donc là, tout concordait finalement. Apollinaire qui a créé le mot surréalisme, sa vie qui finalement est vraiment tournée vers le rêve et la forme du roman que j'avais envie d'utiliser donc avec ce procédé du réalisme magique. Donc tout faisait sens, voilà.
D'une certaine manière, la graine du réalisme magique était dans le premier roman et là, elle a fleuri pleinement dans le deuxième.
C'est une belle image, tout à fait.
Alors, je vous propose de faire une pause musicale en écoutant un deuxième titre que vous avez choisi et qui parle d'écriture, puisqu'il s'agit de « J'écris » de Ben Mazuet.
J'écris, gonflé d'espoir, ou triste comme un dimanche, j'écris quand je veux y croire, ou quand ma bonne étoile flanche, l'essence de mon âme brille, quand je mets des mots sur les émotions qui torpillent mon cœur jusqu'au stylo, j'écris pour expliquer, parce qu'en expliquant j'éteins un malaise qui veut pas me lâcher. Depuis le matin j'écris, tant pis si c'est mauvais, et tant pis si c'est perdu, c'est une question d'équilibre, c'est pas toujours pour être lu. Le sort est un poème, le destin est un roman, avec la mort comme emblème, pour que chaque moment compte. Pour rendre hommage, j'écris dans mon orage, j'écris pour que tombe sur les pages des mots qui font sécher couler des larmes. J'écris sur nos virages, j'écris et ton visage me dit qu'il n'a pas cessé d'être ma plus belle arme. Pas cessé, même après s'être quitté. D'être ma plus belle arme. Pas cessé, oh, même après s'être quitté. Pas cessé, même après s'être quitté. D'être ma plus belle arme. J'écris à mon pote, à ma mère, à ma femme, à mon gosse, à mes peurs, à mes cris, à ma crasse, à la terre, à la sale sorcière de mon cœur. Quand la vie de tempête imminente agite un drapeau rouge et noir, que le bruit dans ma tête augmente pour le faire taire, moi j'en parle. Le sort est un poème, le destin est un roman, avec la mort comme emblème, pour que chaque moment compte. Pour rendre hommage, j'écris dans mon orage, pour que tombe sur les pages des mots qui font sécher couler des larmes. J'écris sur nos virages, j'écris et ton visage, qu'il n'a pas cessé d'être ma plus belle âme. Pas cessé, même après s'être quitté. Pas cessé, même après s'être quitté. D'être ma plus belle âme. Pas cessé, oh, même après s'être quitté. Pas cessé, même après s'être quitté. D'être ma plus belle âme. Ton esprit court, chante, presse ton âme de s'exprimer. Dans ce monde lance des pics, faudra s'en protéger. Ton esprit court, chante, presse ton âme de s'exprimer. Moi j'aimerais n'avoir qu'à me soucier de rendre hommage, d'écrire dans mon orage, d'écrire pour que tombe sur les pages de ma vie des mots qui font sécher couler des larmes, d'écrire sur nos virages, d'écrire et ton visage me dit Tu n'as pas cessé d'être ma plus belle arme.
Vous êtes bien sur Bac FM. Nous sommes toujours en compagnie d'Alexandra Kozelik, auteur du roman La dixième muse, publié aux éditions Des Forges de Vulcain. Et nous venons d'écouter J'écris de Ben Mazuet. Alors, Alexandra, pourquoi ce morceau ?
Alors, c'est un morceau que j'ai découvert il y a quelques mois et il rend vraiment compte de mon rapport à l'écriture. Donc, dans le morceau, on voit bien que la personne écrit et que c'est plus fort qu'elle. C'est quelque chose comme une respiration, finalement. Et l'écriture, pour moi, est devenue vraiment une respiration, une forme, finalement, de... Alors, j'écris tous les jours, où j'essaye vraiment d'écrire tous les jours, mais quand je n'écris pas tous les jours, je me rattrape les jours d'après. Et alors, c'est pas forcément effectivement pour être lu, comme le dit Ben Mazuet. C'est vraiment pour soi avant tout. J'écris parce que ça bouillonne en moi et c'est un trop-plein. Un petit peu comme ceux qui font du sport et parce qu'ils ont trop d'énergie. Ben moi, mon énergie, ce sont vraiment les mots qui sortent et qui ont besoin de parcourir la feuille.
Donc, pas forcément pour être lu, mais plutôt pour le plaisir d'écrire ou le besoin d'écrire. Les deux sont peut-être un peu mêlés.
Oui. Alors, pour moi, effectivement, le plaisir d'écrire est essentiel. Il y a la figure de l'artiste maudit qui souffre, qui... Et finalement, moi, je n'ai pas cette figure-là. Je ne souffre pas quand j'écris. Après, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de doutes. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand j'écris, les doutes sont là. Mais le plaisir est toujours plus important que le doute, dépasse le doute. Je me dis que finalement, même si lors du premier jet, l'écriture n'est pas forcément ce à quoi je veux arriver, par la suite, lorsque je vais réécrire ou lorsque je vais relire ce que j'ai écrit, j'arriverai à quelque chose qui me convient, même si ça doit prendre 6 mois ou 1 an. Mais il y a toujours ce plaisir-là, effectivement, au bout du compte, oui.
Beaucoup de retravail donc d'écriture, beaucoup de réécriture, de relecture dans ce que vous nous expliquez. Et oui. Justement, votre roman qui fait entendre plusieurs voix hein, quand même dans différents endroits, à différents moments, ont des styles qui s'adaptent à chaque fois au lieu et à la personne et qui ne se ressemblent pas. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé sur ces différentes écritures pour les restituer dans leur individualité ?
Alors, déjà, je vous remercie parce que c'est un très joli compliment. Alors, lorsque j'ai commencé à écrire les portraits présents dans la dixième muse, j'avais vraiment le temps, c'est-à-dire que mon premier livre n'était pas encore publié. Je n'avais même pas commencé les corrections de mon premier livre. Mais pour ne pas rester dans une certaine attente, j'ai commencé l'écriture d'un second roman. Et donc, comme j'avais le temps, j'ai vraiment fait voix après voix. Et par exemple, Marie Laurencin, j'ai beaucoup lu autour de Marie Laurencin. Après, il y a une période où j'ai pu digérer qui elle était, en quelque sorte. Et puis par la suite, me mettre dans la peau de Marie Laurencin. J'ai fait pas mal de théâtre quand j'étais plus jeune, et avec notamment pas mal d'improvisation. Et donc, il fallait se mettre dans la peau d'un personnage. Et je pense que quand j'écris de façon inconsciente, je reprends ces techniques-là. C'est-à-dire, je me remets dans la peau de la personne. Et donc là, j'avais lu notamment autour de Marie Laurencin qu'elle avait vécu une relation assez passionnelle. Enfin, c'était une relation qui n'était pas très calme avec Guillaume Apollinaire, avec pas mal de frasques, pas mal de disputes. Mais en même temps, c'était une période très prolifique au niveau de leur art, que ce soit pour Guillaume comme pour Marie. Et donc, j'ai voulu créer là aussi ce côté relation entre deux artistes qui, selon moi, ne peut qu'embellir les choses. Même si à côté, dans la réalité, il y avait quelques animosités, c'était vraiment une façon pour eux de se sublimer, en quelque sorte, de se transcender. Et donc, lorsque j'ai écrit Marie, j'ai choisi cette approche-là. Pour moi, j'avais lu aussi que Marie Laurencin avait choisi de se faire enterrer avec les lettres de Guillaume Apollinaire. Et alors que, il était mort depuis longtemps. Et je me suis dit qu'il y avait eu forcément quelque chose qui était plus fort que tout pour qu'elle fasse ce geste qui est hautement symbolique. Donc en fait, c'est parti de là, des lettres, et de me dire comment elle a pu vivre finalement la mort de Guillaume Apollinaire alors qu'elle-même, elle est exilée et mariée à un autre homme.
Alors, vous parlez de symboles, et c'est vrai que dans votre roman, eh bien, il regorge de symboles, de légendes, de mythes et d'histoires. Il n'y a pas seulement des voix, donc vous gérez énormément d'éléments différents. Comment est-ce que vous avez choisi tous ces symboles, ces histoires, pour maintenir la cohérence du sens? Parce que tout est très cohérent, on s'en aperçoit au fur et à mesure de la lecture. Tout est cohérent, mais c'est très foisonnant. Comment est-ce que vous avez choisi ces éléments?
Alors en fait, avant d'écrire, j'écris aussi un synopsis qui fait entre 2 et 25 pages. Donc ça peut... le synopsis est très détaillé. Et lorsque j'ai écrit mon synopsis, là aussi, je laisse maturer en quelque sorte. Je laisse grandir ce synopsis en moi, je le digère. Et à ce moment-là, c'est une période de recherche, c'est-à-dire que je vais redevenir étudiante et faire pas mal de recherches autour des mythes qui peuvent m'intéresser ou autour de légendes. Et donc là aussi, je vais pouvoir les intégrer à ce synopsis et faire en sorte qu'ils fassent sens avec l'histoire.
Ah oui, c'est pour ça qu'on voit les éléments se répondre d'un chapitre à l'autre, mais assez lointain, parfois, on se dit « Ah, mais oui, c'était dans le chapitre ». Donc, c'est très construit, effectivement, et ça se voit. À la lecture, on se rend compte que toutes les briques se posent les unes sur les autres, et à la fin, eh bien, voilà, je ne dirai pas, mais à la fin, il se passe des choses. Voilà. Et justement, alors, il y a notamment des préoccupations environnementales dans votre roman, ce qui m'a un petit peu surprise, je ne m'y attendais pas. Est-ce que vous considérez que votre roman est lié à l'actualité écologique?
Alors, pour moi, c'est plus qu'une actualité, c'est une façon d'exister ou d'être, un positionnement que j'ai dans la vie. Et donc, je pense que ça se retransmet tout simplement. Je le retranscris. Je n'arrive pas à ne pas parler de la nature dans mes romans. D'ailleurs, le premier roman, donc, A crier dans les ruines, a été un roman construit autour de la nature. C'est-à-dire que c'est le personnage de la nature qui est venu avant les autres personnages. Et j'ai vraiment l'impression, lorsque j'écris, qu'il me faut cette nature dans l'écriture. Enfin, c'est quelque chose qui...
C'est un élément de base fondateur, peut-être.
Oui, voilà. Et puis, c'est vrai que quand j'écris, alors, toutes les différentes parties autour de la nature arrivent très rapidement. Pour moi, c'est assez... alors, ça peut être perturbant, mais dans le bon sens, dans le sens où c'est vraiment un flot qui sort et que je laisse couler, finalement. Mm-hmm. Et c'est vrai que tout à l'heure, vous me disiez que c'est un roman qui est construit... en fait, on comprend la fin... avec les briques qui ont été posées au départ. Et mon éditeur n'a pas... Alors, je parlais de ce roman-là, de ce roman, plusieurs fois, mon éditeur, mais il l'a lu quand il a été terminé. Et à chaque fois, je lui disais, je ne peux pas te le faire lire tant que je ne l'ai pas terminé, parce que il y a des pièces qui se mettent en place à la fin du roman. Donc, pour moi, tout fait sens. Et si je te le fais lire sans les pièces d'après, peut-être que tu vas me demander de changer certaines choses au début, parce que tu vois pas forcément pourquoi elles sont là, alors que par la suite, tu le découvriras. Et donc, il a attendu. Il m'a fait confiance. Et donc, ça, c'était très chouette. Il m'a dit de terminer mon geste et de voir effectivement à la fin ce qu'il donnerait, tout en me disant, de toute façon, j'ai vu lors de ton premier roman que tu avais une belle capacité de retravail, et donc à ce moment-là, c'est pas grave, même si à la fin il faudra tout déconstruire, je sais très bien qu'on reconstruira quelque chose. Et puis grâce à cette confiance qu'il avait et qu'il a toujours, j'ai pu justement terminer ce geste-là, et puis à la fin il m'a dit non, c'est parfait, en fait il y a pas de déconstruction à opérer.
Oui, et effectivement, on s'en rend compte au fur et à mesure, vraiment, c'est une découverte, et on attend la fin parce qu'on sait que la dernière brique va donner le sens, comme dans un puzzle où tout d'un coup, quand on pose la dernière pièce, hop, l'image complète apparaît et devient compréhensible, c'est tout à fait ça. Alors, est-ce que vous avez maintenant des projets d'écriture? Vous dites que vous écrivez tous les jours, donc j'imagine que oui.
Alors oui, j'ai même deux projets d'écriture en fait. Donc là, j'ai l'impression que je suis un petit peu boulimique en quelque sorte. Alors j'ai un projet d'écriture dans ce qu'on appelle en young adult, donc pour les jeunes adultes, donc à partir de 15 ans. Et après, j'ai aussi un autre projet en adulte, littérature blanche. Voilà, donc j'ai deux projets en cours d'écriture. Voilà.
Eh bien, ça donne envie de savoir de quoi il va être question.
Alors, je pense que alors là, c'est un petit peu trop tôt pour en parler, mais je pense que à chaque fois, il y a des choses autour des racines, de l'identité, du temps aussi. C'est-à-dire que même dans la dixième muse, il y a une, ou même dans Créer dans les ruines, il y a un rapport au temps qui peut être très particulier chez moi et que j'ai découvert notamment dans l'écriture, mais qui régit ma vie aussi. Enfin, j'ai un rapport au temps qui est assez particulier. Et donc là aussi, dans Créer dans les ruines, tout prend son temps. Ça peut même prendre 20 ans, mais à un moment donné, tout ce qui se met en place se mettra en place, même si c'est à la fin d'une vie. Dans la dixième muse, c'est la même chose. Il y a des choses qui se mettent en place, qui prennent le temps d'exister. Et là, c'est la même chose dans ce que seront finalement le troisième et le quatrième livre.
Eh bien, c'est sur cette phrase concernant le temps que nous nous arrêterons, car l'émission touche à sa fin. On aurait envie de vous écouter plus longuement, nous parler de votre roman et de vos projets. Merci. Alors, j'invite les auditeurs à, s'ils veulent en savoir plus, eh bien, tout simplement à se rendre chez leur libraire pour trouver La dixième muse et pourquoi pas aussi À crier dans les ruines, hein, qui est publié chez Point, d'ailleurs maintenant en poche.
Tout à fait.
Et donc, La dixième muse publiée par les éditions Des Forges de Vulcain. Merci beaucoup, Alexandra, d'avoir passé un moment avec nous sur les ondes de Bac FM.
Je vous remercie. Merci infiniment.
Et je remercie donc nos chroniqueurs pour les coups de cœur enthousiastes et notre partenaire, le réseau de librairies indépendantes Initiales. Et je vous rappelle que si vous voulez nous écrire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette émission, vous pouvez le faire à l'adresse claire@memorialiste.fr. Cette émission était réalisée et montée par Laetitia Durieux et présentée par Claire Garand. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques dans les voies du livre.